Le cinéma au féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie ». Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
Qui sont les femmes marquantes qui ont traversé l'histoire du cinéma? On connaît Agnès Varda, Marie Pickford, Chantal Akerman ou encore Alice Guy, révélées au grand public depuis peu. Serait-elle la partie immergée de l'iceberg? Car elles ne sont sûrement pas les seules femmes cinéastes à faire partie de notre patrimoine cinématographique. Et oui, avant Jane Campion et Céline Sciamma, elles ont été nombreuses, les réalisatrices, scénaristes, directrices photo, productrices, scripts, monteuses, qui ont lutté pour se faire une place dans le 7e art. Silence, elle tourne est un podcast coproduit par le mouvement Up pour redécouvrir ces femmes oubliées de l'histoire du cinéma. Le premier épisode de Silence, elle tourne est consacré à une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood, femme dangereuse chez Raoul Walsh, femme aux cigarettes chez Jean Negulesco ou encore femme aveugle chez Nicolas Ray. Peu le savent, mais elle fut également scénariste, productrice, réalisatrice de 7 longs métrages et de nombreux épisodes de séries télé à succès. Les héroïnes ordinaires de ces films, à contre-courant des vampes hollywoodiennes, luttent pour trouver une place dans la société américaine. Il s'agit d'Ida Lupino. Je suis Esther Brejon et pour ce premier épisode, je reçois Céline Staskiewicz, journaliste et autrice de l'article sur Ida Lupino dans le nouveau numéro de Revue et Corrigée, à l'occasion de la ressortie en version restaurée de 5 films de la réalisatrice. Bonjour Céline.
Bonjour Esther et bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui. On va revenir ensemble sur la carrière de l'actrice, réalisatrice, productrice, scénariste Ida Lupino. Alors pour commencer, Ida Lupino, c'est une grande actrice hollywoodienne, mais elle est de nationalité anglaise. Elle naît à Londres en 1918 dans une famille de comédiens et elle débute donc très jeune le théâtre et le cinéma. Elle est découverte par le réalisateur Alan Dwan et elle part rapidement aux États-Unis en 1933 parce qu'elle décroche un contrat avec la Paramount. Ida Lupino explose en 1940 dans Une femme dangereuse de Raoul Walsh, avec qui elle tournera 3 autres films, et il dira d'ailleurs qu'elle était son actrice préférée. Elle tourne l'année suivante, toujours pour Raoul Walsh, La grande évasion, avec Humphrey Bogart, et s'en suivent d'autres films pendant cette décennie 40, comme Le vaisseau fantôme de Michael Curtis, The Man I Love, toujours de Raoul Walsh, La femme aux cigarettes de Jean Negulesco. Tournage pendant lesquels Ida Lupino joue sa partition d'actrice, mais surtout observe les réalisateurs qui la dirigent, ainsi que les techniciens, et donc apprend beaucoup du fonctionnement d'un plateau. Entre-temps, elle a changé de studio, elle est passée chez la Warner, et après avoir été suspendue plusieurs fois par ce studio pour avoir refusé des rôles, elle le quitte après la guerre. Est-ce que tu peux nous dire, Céline, pourquoi elle quitte la Warner ?
Oui, alors, vu qu'elle a commencé sa carrière en 1932, ça faisait déjà plus de 15 ans qu'elle travaillait en tant qu'actrice. Et en fait, elle en pouvait plus du système des studios. Elle était très frustrée de toute cette superficialité et de cette industrie hollywoodienne. Et du coup, elle prend à Paris au moment où la Warner lui propose un contrat de 7 ans, un renouvellement de contrat un peu basique, où elle est payée, elle est très bien payée puisqu'à cette époque-là, elle est une star. Donc elle prend un grand pari, c'est de dire non à ce contrat, dire non à cette industrie et de tenter l'indépendance. Au sein de cette industrie, ce qui est assez rare.
Oui, tout à fait. Donc, elle crée en 1949 sa propre société de production avec son mari Collier Young, qui s'appelle donc The Filmmakers. C'est une société indépendante qui souhaite produire des films à petit budget.
Du coup, déjà, ils sont 3 à The Filmmakers. Il y a aussi un ami à eux qui s'appelle Marvin Wald. Mm-hmm. Et quand elle fonde cette société qui, à la base, s'appelle Emerald Productions pour au nom de sa mère, ils décident de faire à l'opposé de ce que l'industrie fait à cette époque-là, c'est-à-dire des films très léchés sur des sujets qui ne touchent absolument pas le quotidien de la population américaine d'après-guerre. Mm-hmm. Et du coup, il signe même en 1950 dans le magazine Variety une déclaration d'indépendance où les 3 se disent qu'ils veulent du coup des nouveaux thèmes, ils veulent essayer de nouvelles idées et découvrir de nouveaux talents. Et c'est ce qu'ils veulent vraiment. C'est vraiment une déclaration sur les 6 ans que va durer cette société de production. C'est vraiment leur mojo, c'est de la nouveauté et arrêter de faire ce qui a déjà été fait.
Elle est un peu la pionnière du cinéma indépendant avec cette société parce que donc ils veulent proposer des histoires qui mettent en scène des personnages ordinaires et donc proches de l'américain moyen. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu es d'accord avec ça, le fait que c'est une pionnière du cinéma indépendant ?
Ah mais totalement. En plus, en tant que femme, encore plus, c'est vraiment, c'est après-guerre là. C'est vraiment là où il y a eu une sorte de split entre l'industrie hollywoodienne classique et la naissance du cinéma indépendant. Et les films de The Filmmaker sont vraiment des films pionniers en leur genre. Et elle, en tant que réalisatrice, ça se voit à l'intérieur de chacun de ses films.
Ouais. Alors que c'est une époque où il y a le code, la censure du code ACE et qu'il n'y a pas beaucoup de liberté au sein des studios sur les thèmes des films, elle veut, au sein de sa société, développer des films voilà, avec des thèmes plus originaux et peut-être moins classiques et moins manichéens que ce qu'on voit dans le cinéma de cette époque.
Oui, même des thèmes très controversés au final, parce que c'est des thèmes jamais vus au cinéma, mais c'est des thèmes aussi rarement, en tout cas j'ai l'impression, rarement discutés à l'intérieur même de l'Amérique. Donc c'est encore plus qu'au cinéma, c'est vraiment des thèmes controversés au niveau de la société en général.
All the time I thought it was the most wonderful thing I'd ever known, the way I felt about you. I thought you felt that way too. And all the time you didn't care. Not even a little bit.
Donc on vient d'entendre un extrait du premier film de The Filmmakers, Not Wanted, traduit en français par le titre Avant de t'aimer. Donc Kida Lupino a écrit, produit et même a réalisé, puisque le réalisateur Elmer Clifton a eu une crise cardiaque quelques jours avant le tournage. Donc elle décide de le remplacer au pied levé et elle ne sera pas créditée au générique. Donc en fait, c'est presque par hasard qu'elle passe à la réalisation. Mais est-ce qu'il n'y avait pas, derrière ce heureux hasard, une vraie volonté de mettre en scène ?
Je pense que ce n'était pas vraiment un désir conscient ou un désir affirmé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est touche à tout depuis le début de sa carrière. Elle a commencé à jouer sur scène à partir de 7 ans. Et depuis, elle aime tout faire en vrai. Donc elle aime jouer, mais pendant qu'elle s'ennuyait pendant les tournages ou pendant les jours où elle n'avait rien à faire, elle allait voir chacun des techniciens et elle apprenait au fur et à mesure comment on montait, comment on faisait un plan. Donc depuis le début, elle a toujours voulu se nourrir de tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'au cours de sa carrière, elle est productrice, mais elle est aussi scénariste. Et du coup, grâce à ce film, elle devient réalisatrice vraiment. Donc c'est vraiment au cours de sa carrière d'actrice, je pense qu'elle a... Elle, sans le savoir et sans le vouloir, elle a nourri cette envie-là qui s'est concrétisée à ce moment-là.
Ouais. Not Wanted, le film raconte l'histoire d'une jeune fille jouée par Sally Forrest qui tombe enceinte d'un pianiste torturé et solitaire qui ne veut pas avoir de relation avec elle. Et va s'en suivre la longue errance de cette jeune femme qui ne veut pas annoncer la nouvelle à ses parents et qui se retrouve finalement dans une institution religieuse qui vient en aide aux unwed mothers, les filles mères. D'ailleurs, Unwed Mother, c'était le titre original du film qui a été censuré. Et le film raconte cette longue traversée du désert des femmes enceintes non mariées et le passage dur à l'âge adulte pour cette jeune fille qui est en rébellion contre ses parents. Est-ce que, en fait, elle aime écrire Ida Lupino au fond des histoires de personnes ordinaires ?
Au début de sa carrière, en tout cas, c'est souvent des jeunes femmes dans des périodes de transition et à chaque fois, elles subissent un trauma pour lequel elles vont devoir avancer et pour continuer à vivre. Et c'est souvent dans des milieux quotidiens que vraiment au centre de l'Amérique où tous les Américains, normalement, peuvent se reconnaître parce que c'est jamais vraiment très, très précis au niveau de la localisation. Donc, c'est le cas ici avec le personnage de Sally Forrest qui est très jeune et qui a des envies d'ailleurs avec ce pianiste et qui tombe enceinte de lui et qui du coup doit faire face à ce trauma initial-là pour grandir et devenir adulte.
C'est vrai qu'avec ce film, j'ai l'impression qu'elle rencontre un vrai succès.
Oui, et en fait, c'est une surprise un peu pour tout le monde, je pense, parce que le film a été tourné en 2 semaines pour 153 000 $. Et au final, l'année d'après, il a gagné 1 million $ au box-office. Donc pour un film indépendant, c'est assez énorme.
Donc à la suite de Not Wanted, Ida Lupino va réaliser 6 films, dont 5 entre 1949 et 1953. Et dans les films suivants, elle aborde toujours des sujets lourds. Donc là, on a vu, c'était une grossesse non désirée dans Not Wanted. Ensuite, elle va aborder la maladie de la polio dans Never Fear, le viol et ses conséquences psychologiques dans Outrage, ou encore l'adultère dans The Bigamist. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça une volonté de confronter la société américaine à ses tabous ?
Ah bah clairement, c'est ce qu'on voit surtout dans Outrage ou un film sur le viol, même s'il n'est jamais vraiment dit que c'est un viol. C'est très rare et on met vraiment l'Amérique en face à ses travers parce qu'il est dit que c'est l'Amérique qui a créé ces monstres. On retrouve ce thème-là aussi dans The Hitchhiker où c'est du coup le voyage de la peur ou le personnage du tueur en série est créé par l'Amérique, c'est la conclusion du film. Donc c'est assez violent à se prendre en face quand on est spectateur, même si au final c'est assez adouci par la construction du scénario et par le code Hays, je pense qu'il a souvent voulu raboter tout ce qui dépassait, mais on sent quand même un message assez violent à l'intérieur même du film.
Ouais. Dans le film suivant, Never Fear, Ida Lupino met en scène une danseuse, toujours jouée par Sally Forrest, qui est donc atteinte de polio et on voit donc sa convalescence, cette période cruciale où elle va devoir apprendre la patience, la persévérance. On y découvre notamment la vie de ces personnes handicapées qui vivent ensemble dans des centres de rééducation et qui luttent tous les jours pour guérir. Le film est en partie autobiographique car Ida Lupino a elle-même été atteinte de la polio à l'âge de 16 ans, dont elle a guéri, gardant juste de cette maladie une légère surdité à une oreille.
Oui, je pense qu'on peut reconnaître des éléments de sa biographie dans pas mal de ses films, notamment dans Je, 7 et Match, le titre original c'est Heart, Fast and Beautiful, où on suit le personnage de Sally Forrest qui elle a totalement envie de fonder une famille et de se marier, mais en même temps elle a un talent pour le tennis et du coup sa famille et son... C'est pas son producteur du coup, mais c'est son entraîneur, ouais, c'est ça. Lui, la pousse à vraiment devenir une star avant de devenir une femme, en gros. Donc on peut reconnaître un peu le parcours de l'actrice qui, à 14 ans, est arrivée à jouer les vampes dans des films hollywoodiens et qu'on a toujours poussé à donner plus... sûrement au détriment de sa vie privée. Mmh. Et ensuite, il y a aussi le film The Bigamist, qui mélange vraiment réalité et fiction de manière assez, assez troublante,
ouais.
Avec du coup Collier Young, qui est l'ex-mari de Ida Lupino, qui scénarise le film et qui met en scène du coup cette histoire d'un homme qui a deux femmes, et où on peut retrouver par exemple le fait que Ida Lupino elle-même, avant de quitter Collier Young, est tombée enceinte d'un autre homme, donc on se doute qu'elle a vécu une double vie pendant longtemps, et en plus la personne qui joue l'actrice qui joue le rôle de la deuxième,
de la première femme,
de la femme, ouais. Officielle,
ouais, c'est ça.
c'est Joan Fontaine du coup, qui est la nouvelle femme de Collier Young, donc il y a vraiment une sorte de micmac entre réalité et fiction qui est assez, ouais. Qui est assez intéressant et qui a, je pense, a fait le chou gras de pas mal de papiers à l'époque, au moment de sa sortie.
Et c'est d'ailleurs la seule fois qu'Ida Lupino joue dans un de ses films, parce qu'elle joue la deuxième femme de cet homme, Edmund O'Brien, enfin joué par Edmund O'Brien, qui est donc coincé entre ces deux femmes et qui ne sait pas laquelle choisir.
C'est ça, exactement. Voilà. Et en plus, c'est une des premières fois, à voir si c'est vraiment la première, où une réalisatrice se met en scène elle-même, donc où une femme est à la fois devant et derrière la caméra.
When did you first notice the man following you? When did you first notice him?
Good morning, Andy.
Good morning, Ann. Well, aren't you the happy little worker this morning?
Oh, I certainly am.
Any particular reason?
Mm-hmm. There's 60 million men in this country, and I found the right one.
Mr. Walden, I'm sure it comes as no great surprise. I want to marry Ann.
But this is wonderful. Two pieces of chocolate cake, please, to go.
If I was your boyfriend, you wouldn't have to buy me no cake. You better make up your mind. I might be moving on next week. Beautiful.
Donc on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce d'Outrage, le chef-d'œuvre d'Ida Lupino réalisé en 1950, qui évoque le viol et les conséquences psychologiques de cet événement sur une jeune femme, Anne, incarnée par l'actrice Mala Powers. Et là, Ida Lupino nous montre une personne qui subit en quelque sorte une double peine, le traumatisme du viol et le jugement de la société. Ida Lupino d'ailleurs subit une nouvelle fois la foudre de la censure puisque le mot viol, rape, n'est pas prononcé de tout le film. Donc, comme je disais, Outrage est considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre. Il y a notamment une scène qui est vraiment extraordinaire, c'est la scène juste avant le viol, une sorte de cache-cache extrêmement tendu entre le chasseur et sa proie dans une sorte de ville fantôme, un décor de totalement industriel. Et je voulais savoir, Céline, si tu étais d'accord pour considérer Outrage comme le chef-d'œuvre d'Ida Lupino.
Bah, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est le premier film où on sent vraiment que sa mise en scène se libère et on voit vraiment son envie de faire un film noir. C'est là où vraiment on sent que, notamment dans la scène dont tu parles, où il y a cette envie-là de mêler un peu d'expressionnisme avec du néo-réalisme, vraiment pour... on voit ces grandes ombres, ces angles assez impressionnants dans ces paysages vides. Et c'est vrai que cette scène-là est vraiment un moment de bravoure dans sa filmographie. Et en plus, ce qu'elle arrive à faire sortir à l'actrice Mala Powers, pour qui c'est son premier rôle, est assez impressionnant. Mmh, c'est là où on voit vrai. Vraiment tout son talent dans la direction d'acteur. C'est que pour un premier rôle, c'est assez impressionnant ce qu'elle arrive à sortir. Et je pense que c'est notamment parce que Ida Lupino était actrice elle-même qu'elle réussit vraiment à mettre en scène et à diriger son actrice pour que des émotions telles qu'elle arrive à lui faire sortir nous parviennent.
Ouais.
Donc je en tout cas c'est sûrement un de ses chefs-d'œuvre. Moi j'avoue que ma préférence va tout le temps pour The Bigamist parce que j'adore, c'est vraiment personnel, mais j'adore vraiment le mélange entre le film noir et le mélodrame domestique.
Ouais.
Et qu'en plus comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on la voyait à l'écran, donc c'est vraiment personnellement ce sera toujours celui-là mon préféré, mais c'est vrai qu'Outrage est assez exceptionnel dans son genre aussi.
Ouais. Évidemment, on remarque, là on vient de parler de Outrage, avant de Never Fear, Not Wanted, on remarque qu'elle met souvent en scène des personnages féminins qui vivent des situations difficiles. Et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est des situations qui sont typiquement féminines. C'est le viol, une grossesse non désirée, c'est des situations que les hommes ne peuvent pas connaître. D'ailleurs, Scorsese dira, ces héroïnes sont toujours d'une grande dignité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'empathie pour ces héroïnes. C'est pas un cinéma qui est désespérant non plus, même si les thèmes sont assez lourds. Est-ce qu'on peut dire, selon toi, que ce sont des films féministes ?
Du coup, bizarrement, c'est quand même une question assez compliquée et il y a beaucoup de critiques, notamment féministes, qui se sont battues sur le sujet. C'est au moment de la redécouverte de ces films en 1970, on ne peut pas vraiment dire que les critiques féministes de l'époque ont vraiment apprécié ces films. Les conclusions, des fois, narratives sont assez conservatrices. C'est souvent un homme qui vient sauver la femme ou le mariage qui vient sauver la femme, ce qui ne plaisait pas aux féministes, clairement, de l'époque. Et qui ont même poussé certaines personnes à dire qu'elles traitaient de sujets féministes avec une perspective anti-féministe. Et en plus, il y a de nombreuses déclarations de la réalisatrice qui ne se proclamait pas féministe, ce qui ne la sauve pas non plus. Donc c'est sûr que ça n'a pas forcément plu par rapport à des réalisatrices comme Dorothy Asner qui, à la même époque, ont été redécouvertes. Même si on ne peut pas totalement dire que la réalisatrice était féministe, ce qui est sûr, c'est qu'elle a mis des pierres pour les réalisatrices des prochaines générations.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Ida Lupino est la deuxième femme à intégrer la Directors Guild of America après Dorothy Arzner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une femme qui a réussi à s'imposer dans un univers masculin à une époque où très peu de femmes réalisatrices y parvenaient.
Oui, c'est sûr. C'est la première, du coup, c'était Dorothy Asner, et je crois que son dernier film, ça date de 1943. Donc, j'ai l'impression qu'à cette époque, il y avait vraiment une femme tous les 20 ans. Donc, il y avait Lois Weber dans les années 1910-1920, ensuite Dorothy Asner, et ensuite, on a eu le droit à Ida Lupino. Et pourtant, je pense que c'est grâce aussi à sa carrière d'actrice, elle a vraiment réussi à faire son chemin à travers cet univers totalement masculin. Et elle a profité aussi de sa féminité, de sa carrière d'actrice, pour notamment par exemple charmer les censeurs. Je pense que beaucoup de ces films n'auraient pas pu se faire s'il n'y avait pas une femme derrière la caméra, aussi ambigu cela puisse paraître. Et aussi sur son, par exemple, au cours de ses tournages, elle se faisait souvent appeler Mother, c'était son surnom.
Ouais.
Et c'est vraiment, elle avait cette place là de mère qui dirigeait sa famille pour faire en sorte que ces films puissent sortir. Mais au final, par exemple, on voit qu'elle pouvait avoir cette place-là, notamment parce qu'elle faisait des films indépendants. À partir du moment où il a fallu lui donner des gros budgets, ça a mis beaucoup plus de temps. Son film The Trouble with Angels, le dortoir des anges en français, est sorti qu'en 1966. Donc il y a eu vraiment un écart, le temps qu'on lui autorise un film à gros budget.
Ouais. J'ai trouvé une statistique que je trouvais intéressante, c'est entre 1949 et 1979, sur 7332 films produits par Hollywood, seuls 14 ont été réalisés par des femmes, et sur ces 14 films, 7 ont été réalisés par Ida Lupino. Malheureusement, l'aventure de The Filmmakers prend fin. La société de production qu'elle a créée, donc avec Collier Young, fait faillite. Pourquoi, alors que Not Wanted, le premier film, avait rencontré un vrai succès, pourquoi ils font faillite ?
Ils avaient réussi à se tenir plusieurs années, du coup, notamment parce qu'ils avaient signé une sorte de contrat avec la RKO qui leur permettait de distribuer leurs films. Et après, malheureusement, il y a eu un échec avec The Bigamist, qu'ils n'ont pas réussi à vraiment renflouer les caisses après ça. Ils ont essayé notamment de faire le film Ici Brigade Criminelle de Don Siegel, et qui a été un échec également. Et donc la société n'arrive pas à s'en remettre et elle est obligée de fermer au bout de ces quelques petites années d'existence.
Mais Ida Lupino ne se laisse pas abattre pour autant et elle passe à la réalisation d'épisodes de séries télé tout en continuant à être actrice. Elle va réaliser 67 épisodes pour 37 séries différentes entre 1956 et 1968. Donc elle va réaliser des épisodes de séries à succès, hein. Alfred Hitchcock présente, Les Incorruptibles, Le Fugitif, La Quatrième Dimension. C'est d'ailleurs la seule femme à réaliser un épisode de cette série.
Et elle est l'une des réalisatrices les plus prolifiques, peu importe son sexe, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Et vraiment, elle touche à tous les genres. Elle fait des westerns, elle fait des films elle fait des épisodes à suspense. On l'appelle d'ailleurs the Female Hitch, en référence à Hitchcock, parce qu'elle réalise notamment des épisodes de la série Alfred Hitchcock présente. Donc elle est vraiment touche à tout, et même si des fois elle se fond un peu dans la série elle-même, on n'arrive pas vraiment à sortir une patte d'auteur de ces épisodes-là. Il y en a quelques-uns, notamment celui dont tu parles, de la quatrième dimension, qui sont assez impressionnants et où on voit totalement des bribes de films noirs, de films de genre qui ont fait sa carrière auparavant.
Merci Céline d'avoir participé au premier épisode de ce podcast et merci au mouvement UP de coproduire ce programme. On rappelle le titre de ton livre, Céline, Sous la peau de Scarlett Johansson, sorti récemment aux éditions Rouge Profond.
Merci à toi, Esther.